Merci beaucoup, colonel. Nous allons maintenant passer aux questions. On va commencer cette semaine par Goma. Goma, première question est pour vous, première et deuxième.
Merci pour la parole. Je m'appelle Cosmas Mongas Gakola, journaliste et scientifique, promoteur du journal Flambeau de l'Est. Je pose ma question au colonel ou à un responsable de la MONUSCO. La MONUSCO a annoncé son retrait à Masisi. Et pourtant, les localités de Nyabiondo et Kachebere, se trouvant à moins de 100 km de Masisi Centre, ont été investies par les APCLS. De Janvier Kalahiri. Ma question est de savoir, est-ce que la mission est dépassée, la mission est fatiguée ou la mission est incapable de traquer les forces négatives se trouvant en Masisi, dont les APCLS, les Nyantura et autres. Merci.
Colonel, vous voulez répondre?
Peut-être un premier élément de réponse. En fait, je crois que dans le compte rendu, que le point de situation que je viens de faire, il a été clairement annoncé que cette réduction aux fermetures de base, cette fermeture de base est encore à l'étude. Mais on n'a pas affirmé encore que les forces sont retirées de quelque part. La réorganisation de la force de la MONUSCO est en étude. Et je crois que le moment venu, on vous dira de quoi il s'agit. Et surtout que les autorités les plus... les autorités compétentes de la MONUSCO, j'allais dire, sont, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure dans le test, sont en discussion ou en discussion avec les chefs de bureau qui commandent toutes ces zones, et également avec nos partenaires qui sont les FRDC. Donc rien n'est fait au hasard, ce n'est qu'après une longue étude que, effectivement, on vous dira de quoi il s'agit. C'est ce que je pourrais apporter comme élément. Merci.
Si je peux me permettre de compléter un petit peu votre réponse, il est bon de rappeler effectivement que la sécurité et la protection des civils relèvent d'abord des autorités congolaises et des forces de sécurité nationales, et qu'effectivement la MONUSCO est en train de se réorganiser. L'idée, c'est d'avoir un dispositif plus flexible, plus mobile, plus adaptable et qui sera évidemment adapté aux nouvelles contingences financières de la mission. Est-ce qu'il y a une deuxième question à Goma?
Oui, c'est Victor Bigatti pour le compte du journal La Ponctualité. Je pose toujours ma question, colonel. Je voulais juste rebondir ma question à la question que mon confrère Cosmas vient de poser. Mon colonel, vous trouvez que est-ce que c'est le moment que la MONUSCO peut quitter certaines zones? Parce que je trouve que durant ce mois, il y a la renaissance et les groupes armés sont devenus encore plus actifs que d'autres mois passés.
Je peux peut-être commencer à répondre, ou vous y allez, colonel?
Je crois que c'est vous qui le dites, mon ami, mon confrère, Victor, c'est vous qui le dites, c'est vous qui dites que les groupes armés sont en renaissance ou choses. Mais moi, je n'ai pas d'informations aussi précises sur ces éléments. La réponse que je viens d'apporter à la première question de notre confrère est toujours demeure valable. Merci.
Une autre question ici à Kinshasa. Vous avez été le plus rapide.
Merci, Albert Omba, America TV. Pour rappeler au colonel, les groupes armés sont actifs à Beni, dans le sud vers Kabasha. Ils sont actifs à Rutshuru, ils sont actifs à Masisi. On a cité le cas de Nyabiondo et Kachebere. Ils sont actifs au sud Kivu à Fizi et à Uvira. Bientôt, ça sera d'autres localités de Walikale et consorts. Quel est le dispositif que la MONUSCO prend? Parce que tous les groupes armés renaissent actuellement à l'Est. Quel est le dispositif que la MONUSCO prend pour contrer tous ces groupes armés Mai-Mai?
Colonel, vous voulez répondre à cette question qui est un petit peu similaire aux deux premières?
Mais je crois que si vous, j'ai assez répondu. Je crois que si madame peut apporter quelques éléments, ce serait peut-être, ça apporterait un plus.
Voilà. Vous savez que dans le dispositif actuel, il y a des blases qui sont implantées dans des localités. Elles ne peuvent pas être implantées ad vitam. Elles ne sont pas là pour durer. Elles sont là pour être mobiles, pour aller se déplacer dans les endroits où il y a des besoins. Et vous n'êtes pas, vous savez que vous êtes particulièrement informé de la situation dans les Kassai, où nous avons aussi dû déployer des troupes. Donc les troupes, elles ne se multiplient pas. Quand on en enlève quelque part, on en met quelque part, il faut les enlever quelque part. Mais il n'empêche que tout cela est fait avec à l'esprit de maintenir la possibilité de venir en appui aux autorités congolaises et aux forces de sécurité pour la sécurité et la protection des populations civiles. Une deuxième question ici. Le micro n'est pas ouvert.
Allez. Je disais merci Fabien Pompé. Je suis Nikezo Mozani d'Afrikeco.ch. Ma question est la suivante. Vous venez de souligner, et d'ailleurs on le sait, que la MONUSCO accompagne la CENI pour l'organisation des élections dans ces pays. Mais il y a quelques jours, le président de cette institution, la CENI, je vous l'ai dit, affirme qu'il a des difficultés techniques. Et vous accompagnez la CENI. Vous pouvez nous dire techniquement, il a quel type de difficultés qui sont susceptibles d'empêcher l'organisation des élections cette année?
Effectivement, la MONUSCO, selon son mandat, apporte un appui technique. Et là, il s'est concrétisé par le déploiement du matériel à travers le pays pour l'enrôlement des électeurs. Après, les autres problèmes techniques que vous évoquez, je ne sais pas exactement de quoi ce qu'ils sont et s'ils relèvent ou pas d'une assistance de la MONUSCO. Donc, je ne peux pas vous répondre dans le détail. Monsieur ?
Merci. Monsieur Nkiere Maï de l'Agence congolaise de presse. Madame, j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à la question de mes deux premiers prétendants. Parce que vous avez comme mission de protéger, stabiliser et consolider la paix. Or, il se fait que, depuis un certain temps, il y a une renaissance des groupes armés à Fizi, à Nyabiondo et ailleurs, à Massissi. Alors, nous voulons savoir quel est le dispositif que vous mettez en place justement pour contrecarrer cette renaissance des groupes armés. C'est ça la question.
Bah, je vais vous donner l'exemple de Fizi, puisque vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé quand les attaques ont commencé? La MONUSCO a appuyé, comme elle le fait, à la demande des FRDC. En transportant du matériel, en évacuant les blessés des FRDC, en mettant aussi les hélicoptères de combat et pour faire des reconnaissances. Donc, elle a été impliquée. On est là. Nous sommes toujours là. Est-ce qu'on peut avoir une question à Goma, maintenant? Goma, une question?
C'est Benjamin Mouloba pour le compte de la radio Blessing FM. Ma question s'adresse à Madame Florence Marshall. Ça fait déjà près de 3 semaines que l'épidémie de choléra est signalée dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Quel est le soutien que les humanitaires des Nations Unies ont déjà apporté à cette population qui traverse les conditions sanitaires difficiles?
Merci. Je n'ai pas les données précises concernant le territoire et la région de Rutshuru, mais effectivement, comme on l'a déjà souvent dit, le choléra nous préoccupe. On a assisté à une augmentation de 7% des cas par rapport à l'année dernière, à la même période, avec déjà quasiment 400 décès sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une situation très préoccupante sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, c'est le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo qui est le premier à apporter la réponse et qui, dans cette réponse, est soutenu par les organisations, les fonds, agences et programmes des Nations Unies, l'OMS, UNICEF notamment, mais aussi l'ensemble de la communauté humanitaire. Et un rappel, le choléra est une maladie d'origine hydrique. Donc c'est le problème, c'est celui de l'accès à l'eau et le fait d'avoir accès à une eau qui soit propre. Donc en amont, évidemment, il faut aussi, dans le cadre de projets de développement, s'attaquer aux causes profondes qui amènent le choléra, avec la construction de latrines et de systèmes efficaces d'eau, d'hygiène et d'assainissement.
Merci Florence. Une autre question à Goma.
Merci, c'est Touvé Ounzi de la RTNC. Et Madame le porte-parole à l'intérim, vous avez parlé avec beaucoup de fierté que la MONUSCO a doté le Nord Kivu d'une sirène de 100 000 $. L'essai fait lors de la dotation et l'essai fait le lundi dernier a prouvé que la sirène ne pouvait même pas porter à 10 mètres alors qu'elle a coûté 100 000 $. Qu'est-ce que la MONUSCO va faire pour que le jour de l'éruption, que sa sirène puisse retentir?
10 mètres, je pense que c'est un petit peu exagéré. Si, bon, j'étais pas à Goma, mais effectivement, si les exercices de simulation sont faits pour ça, ils sont faits pour savoir si tout fonctionne, sinon on n'aurait pas besoin de faire d'exercice. Si il s'avère que là, il y a certaines populations qui n'ont pas entendu correctement la sirène, on doit ajuster, mais c'est pour ça qu'on fait des exercices. C'est exactement la motivation qu'il y a derrière ce genre de simulation. Je vous remercie. Je vais prendre une question ici.
Guy Oloume, RTNC de développement. Madame Pompei, la situation sécuritaire est explosive dans le pays et la population assiste impuissante face à la recrudescence des épidémies variées et multiples. Pensez-vous que la RDC doit déclarer l'état d'urgence ou vivre en mode indifférent? Merci, madame.
Excusez-moi, je ne comprends pas très bien votre question parce que je crois qu'elle s'adresse aux autorités congolaises et pas à la MONUSCO.
Je peux apporter un complément. La semaine dernière, vous vous souvenez, les représentants de la FAO et du PAM sont venus pour témoigner de ce qui se passe dans la grande région du Kassai. Nos collègues d'Otcha aujourd'hui nous ont fait parvenir des informations pour faire un petit peu le point sur la situation. En tout cas, au niveau des Nations Unies, dans notre jargon interne, pour Otcha, la situation humanitaire a été classée au niveau maximal, ce qui nous permet après d'avoir accès à des financements et de pouvoir déployer plus facilement des personnels sur le terrain. Donc, mais après, au niveau, comme l'a dit Fabienne, au niveau du pays, effectivement, il ne nous revient pas de déclarer la situation. Mais en tout cas, nous, en interne, afin de pouvoir apporter une assistance plus rapide et plus efficace aux populations dans le besoin, oui, nous travaillons selon des procédures d'urgence.
Je vais prendre une question ici à Kinshasa. Le monsieur ici avec la veste.
Merci Fabienne, c'est venant à vous dire ça de la RTNC. Certaines réalités vous échappent parce que vous venez à peine d'arriver, mais Théophane comme monsieur Charles pourront vous compléter. Sachant que la région du Kassai n'est pas complètement pacifiée, ainsi que ses environs, la MONUSCO en profite pour lancer un ultimatum pour que le calendrier électoral soit publié. La question que je me pose, est-ce réaliste de la part de la MONUSCO, connaissant les réalités actuelles, pour que l'ultimatum soit lancé afin que les élections ou le calendrier électoral soient publiés d'ici décembre 2017? Merci.
Il s'agit en aucun point d'un ultimatum, il s'agit juste de rappeler ce qui est dans l'accord qui a été signé entre les parties congolaises, qui donc prévoit des élections avant la fin de l'année. Il n'y a pas du tout d'ultimatum là-derrière, il s'agit juste de rappeler la résolution 2348 des Nations Unies qui avait été validée par le gouvernement congolais et dans laquelle on peut lire « Le Conseil de sécurité demande à la CENI de publier immédiatement un calendrier électoral complet, révisé, et de procéder sans tarder à une mise à jour crédible des listes électorales. Donc ce n'est pas un ultimatum, c'est ce qui est écrit dans les textes depuis plusieurs mois. Je vais repasser la parole à Goma.
Oui, c'est Valérie Moukossassing pour le compte de 767.cd. Vous avez tantôt parlé de la réduction du budget de la MONUSCO pour l'année 2017. Si ce n'est pas un secret des polichinelles, peut-on avoir une idée sur son impact dans les activités de la MONUSCO en RDC? Mais également, est-ce que les déplacements de la MONUSCO quitter Walikale et Masisi ne seraient pas le résultat de cette réduction? Merci.
Concernant le budget, bon, il est évident qu'avec une réduction budgétaire, il faut réajuster. Ça, c'est encore en cours de discussion au sein de la mission pour savoir comment le budget sera réajusté à l'interne. Cette diminution, elle touche pas que la MONUSCO, elle touche plusieurs autres missions. C'est une réduction qui n'est pas négligeable, en effet. Mais c'est pas la première, hein. On a déjà eu plusieurs réductions du budget de la MONUSCO, qui a baissé de 20% en 4 ans. Donc, on doit se réadapter à chaque fois aux nouvelles réalités financières. Ce qu'il faut, c'est toujours prendre en compte le mandat, être capable, tout en restructurant et en réadaptant, de pouvoir assurer le mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité. Pour ce qui concerne les troupes de la MONUSCO, c'est effectivement un changement de mode opérationnel qui a déjà commencé dans certains endroits, où il y aura plus de mobilité, plus de flexibilité, plus d'adaptabilité des troupes sur le terrain pour qu'elles puissent conserver leur capacité à protéger les populations civiles. Une autre question, je ne sais plus où j'en suis, je crois que c'est Goma encore.
Oui, merci. C'est Norbert Mouindouloa pour le compte du journal Émergence. J'en viens sur la situation sécuritaire. Madame Pompée, je ne parviens pas à comprendre peut-être parce que vous dites, la MONUSCO dit qu'elle est entrée de protéger les civils. Les FRDC le font également. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez justement par rapport à cette situation sécuritaire qui se gâte du jour au lendemain. Je voudrais à ce que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous entendez par protéger le civil ou protection des civils. Merci.
Oui, merci pour cette question, parce que c'est vrai que parfois la protection des civils, c'est pas quelque chose de très de très clair. Protéger les civils, ça ne veut pas dire qu'il y aura un soldat de la MONUSCO derrière chaque civil ou une base dans chaque village. Ça veut dire que nous mettons nos capacités, les troupes et la logistique en soutien aux forces armées congolaises. Ça, c'est la première chose. Et la protection, ce n'est pas que la force armée. C'est aussi la stabilisation. C'est aussi que par exemple, les gens n'aillent pas s'enrôler parce qu'ils sont dans un environnement propice pour pouvoir travailler. Et ils aient d'autres sources de revenus, c'est tout ce qu'on appelle la phase de stabilisation. Ça fait partie aussi de la protection. Ouvrir des routes, reconstruire des ponts, ça fait partie de la protection. Quand les gens sont plus facilement accessibles pour les forces de sécurité, etc. Donc, c'est assez vaste la notion de protection. Et si vous le souhaitez, on pourra un jour en parler plus en détail. Est-ce que je vais prendre une question à Kinshasa, monsieur là-bas?
Roger Marley Lukunga pour leparis.cd. La CPI, Cour pénale internationale, totalise ce jour 15 ans. Nous sommes ravis d'avoir cette information. L'heure se prête déjà à un mini-bilan, à un bilan à mi-parcours. Alors, s'il y a un représentant de la CPI ici, j'aimerais qu'il rétorque à la constatation selon laquelle cette institution basée aux Pays-Bas ne s'acharne que sur le continent africain. Que peut-on voir derrière cet acharnement ? Peut-on dire que le continent africain est le seul espace politique où les habitants sont des violateurs de principes de droits humains?
Merci.
Qu'est-ce que
je crois
derrière cet acharnement?
On a compris votre question. Je passe la parole à Margot Tedesco, qui est la porte-parole, qui est la chargée de communication pour la Cour pénale internationale ici.
Bonjour. Alors, je crois que dans votre intervention, il y a plusieurs questions. Il y a tout d'abord la question du bilan en 15 ans d'entrée en vigueur du statut de Rome. Et la deuxième question est plus une question de, voilà, finalement, où est-ce que la CPI mène ses enquêtes. Alors, pour répondre à la première question, comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 10 situations ouvertes par la CPI. Et il y a également 23 affaires en cours. Le bilan total, par exemple pour la RDC, est de 3 personnes où il y a eu des procès et il y a eu également 2 condamnations. Les condamnations sont celles de Germain Katanga et celles de Thomas Lubanga pour des crimes commis en Ituri entre 2002 et 2003. Il y a actuellement un procès qui est en cours, c'est celui de Bosco Taganda pour des crimes également commis en Ituri entre 2002 et 2003. Il y a également un mandat d'arrêt qui n'est toujours pas exécuté concernant Sylvestre Mudachumura pour des crimes commis dans les Kivu. Voilà, donc ce mandat d'arrêt n'est toujours pas exécuté. Donc ça, la CPI intervient à des affaires ouvertes actuellement dans 10 pays, comme je vous le disais, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Ouganda, en RDC, en Centrafrique par 2 fois. Hein, c'est-à-dire que la Centrafrique a demandé 2 fois à la CPI de venir enquêter sur son territoire. Et également en Géorgie, au Soudan et en Libye. Ça, c'est pour les 10 situations. Concernant la deuxième partie de votre question, il faut rappeler et tenir en compte plusieurs choses, notamment le mode de saisine de la CPI. Dans la plupart de ces affaires, de ces enquêtes ouvertes, ce sont les États eux-mêmes qui ont demandé à la CPI d'enquêter sur son territoire parce que ces pays-là n'avaient pas les capacités ou d'enquêter sur les crimes qui étaient commis, premièrement. Et deuxièmement, la CPI est une institution complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas remplacer les institutions nationales et la justice nationale. Et dans le statut de Rome, il est rappelé dans le préambule que le devoir premier de lutte contre l'impunité, ce sont les États eux-mêmes. Donc la CPI n'intervient que s'il n'y a pas de volonté ou de capacité d'un État de lutter contre l'impunité. Et troisièmement, et je crois que c'est l'élément le plus important, il ne faut pas oublier les victimes. Je crois que dans ce genre de questions et dans ce genre de débat, on l'oublie souvent et toujours les victimes. Je crois que si vous allez demander aux victimes de l'Ituri, aux victimes en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, etc., je crois qu'elles sont contentes que la CPI soit intervenue et qu'elle ait poursuivi des personnes. Peut-être sans la CPI, il n'y aurait jamais eu de personnes condamnées et les victimes n'auraient jamais eu justice. Donc voilà, je voulais juste terminer sur ce point. Et c'est pour ça que concernant la CPI et les autorités de la CPI, notamment la présidente de la CPI, rappellent à chaque fois que la ratification du statut de Rome par le plus grand nombre des pays est importante, justement pour que la CPI puisse remplir son mandat au niveau global et au niveau du monde. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons 124 pays états parties au statut de Rome.
Est-ce que on va continuer maintenant avec Goma, je crois, et peut-être une femme, une journaliste féminine pour changer un peu de voix. Goma.
Moi, c'est Brigitte Makuta au camp des antennes à Kinshasa. Ma question, c'est par rapport à une information qui circule depuis les matins qu'il y aurait des tirs à Kinshasa et que les agents de la MONUSCO étaient interdits de circuler. Même, ils devraient avoir des informations sur le Motorola. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus par rapport à la situation sécuritaire à Kinshasa? Merci.
Oui, absolument. Effectivement, nous avons nous-mêmes dans nos bureaux entendu des tirs ce matin. Et le porte-parole de la police s'est exprimé en disant qu'il s'agissait d'un groupe de Chégué au niveau de Forescom. Donc, Des informations que nous avons jusqu'à présent, que nous avons pu recouper, c'est effectivement des incidents qui ont posé des enfants des rues, des jeunes des rues, avec des forces de l'ordre qui ont tiré en l'air pour les disperser. On aura peut-être plus de détails sur ces incidents plus tard dans la journée. Je vous remercie. En tout cas, au moment où je vous parle, la situation à Kinshasa est calme et il n'y a plus de tirs dans la ville. Mademoiselle, ici.
Merci, c'est Elvira Panzou pour le compte de la radio-télévision à Louange. Les États-Unis d'Amérique ont réitéré leur appel au gouvernement congolais d'organiser les élections et d'assurer un transfert des pouvoirs sans heurte. Mais déjà à 5 mois de cette date fatidique, il n'y a toujours pas de calendrier électoral. Ne pensez-vous pas que la MONUSCO en tant que partenaire...
Nous avons un petit problème technique. Vous voulez essayer de reprendre la fin de votre question?
Oui, j'allais dire que ne pensez-vous pas que la MONUSCO, en tant que partenaire de la RDC, peut faire quelque chose afin de booster les gouvernements congolais pour que ces calendriers soient enfin publiés? Merci.
Vous avez vu déjà la semaine dernière le communiqué de presse du représentant spécial qui effectivement a exhorté à la publication de ce calendrier. Et puis il poursuit ce qu'on appelle les missions de bons offices, sa mission de bons offices. Parfois c'est pas très clair aux oreilles de tout le monde de quoi il s'agit. Les missions de bons offices, c'est une discussion continue qui relève de la diplomatie. Or, vous savez que la diplomatie, quand elle est sur la place publique, quand elle se fait de déclaration en déclaration, elle ne marche pas très bien. La diplomatie, pour être efficace, il faut qu'elle soit discrète. Et je peux vous assurer que ces missions de bons offices continuent justement pour que l'on puisse arriver à la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016. Une dernière question. Non, on a encore le temps pour deux ou trois questions. On va prendre une question à Goma.
Merci pour la parole. C'est Bernard Mastaki pour le compte des Renaîtres et Journal Dia. Ma première question s'adresse au colonel. Monsieur mon colonel, pouvez-vous confirmer qu'à Fizi, Lulimba ou Fizi, Lulimba il y a l'agression? Parce que j'ai suivi avec intérêt, vous avez glissé le mot agression. Pouvez-vous confirmer? Merci.
C'est votre question, ça. Pourquoi vous accrochez à un terme d'agression? Ce que nous avons dit, la situation est dans le Fizi, au sud Kivu, c'est ça, est inquiétante. Et que la force, ce qui est essentiel, c'est que les populations ont été menacées. Vrai ou faux? Et que la MONUSCO est intervenue à travers de multiples actions de reconnaissance armée, à travers la logistique qu'elle a apportée, que la force de la MONUSCO a apportée aux forces de défense et de sécurité de la RDC. Alors quand vous vous accrochez à un terme d'agression, les populations, leur vie était en danger et il fallait intervenir. Les FRDC, qui sont nos partenaires, sont intervenus et ont demandé l'appui de la force de la MONUSCO et la force a réagi. Et on vous dit qu'actuellement, dans le point qui a été fait par le porte-parole, on vous a dit que un certain nombre de populations craignant ces genres d'attaques se sont retrouvées au niveau de la base de la MONUSCO et obtiennent protection de la force de la MONUSCO actuellement. Alors quand vous accrochez à une terminologie, je crois que ce n'est pas juste. Merci.
Je vous remercie. On va prendre une question à Kinshasa. Monsieur?
Oui, merci. Moi, c'est Flavien Msens pour le compte de Planète Télévision. Je reviens toujours pour les 15 ans de la CPI. Parmi les pays africains signataires des chartes de Rome, qui menacent totalement de retirer leurs signatures suite que la CPI traite les pays africains comme de bêtes noires par rapport aux pays européens. Quelle est la réaction de la CPI suite à ça?
Partie de votre question, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu.
Je dis, parmi les pays signataires des chartes de Rome, le pays africain cherche à retirer leurs signatures suite aux traitement de ces pays parce qu'ils traitent les Africains comme le bête noire par rapport aux pays européens. Quelle est la réaction de la CPI suite à ça?
Margot, si vous pouviez répondre à cette question.
Oui, sans problème. Alors, tout d'abord, l'année dernière, il y a eu, à peu près l'année dernière, il y a eu quelques pays qui ont annoncé, notifié leur retrait de la CPI, et notamment l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie. L'Afrique du Sud et la Gambie ont annulé leur retrait à la CPI. C'est-à-dire qu'au jour en novembre, il n'y aura que le Burundi qui ne fera plus partie de la CPI, n'est-ce pas? Encore une fois, la Cour pénale internationale regrette ces retraits, enfin le retrait notamment du Burundi, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas, mis à part le Burundi, il n'y a pas d'autres pays qui ont notifié officiellement le retrait de la CPI. Et les messages à ce sujet sont que, voilà, pour atteindre son mandat, ses objectifs, qui est la fin, mettre fin à l'impunité, il faut qu'il y ait plus d'États possibles qui adhèrent et qui ratifient le statut de Rome. Aujourd'hui, nous sommes à 124 États parties. Le monde a beaucoup plus d'États que ces 124 pays. Donc les messages sont ceux-ci, c'est un appel fort pour la ratification du statut de Rome par les pays qui ne l'ont pas encore signé. C'est que ainsi que la CPI pourra avoir une compétence plus large et que les victimes, les potentielles victimes, ou en tout cas les populations, pourront être protégées de probables crimes qui pourraient être commis à leur encontre. Donc c'est ça les messages. Encore une fois, le continent africain fait partie des pays, enfin du continent, pardon, où il y a eu plus de demandes d'enquête. Ce sont les États eux-mêmes qui ont demandé à la CPI d'enquêter pour différentes raisons. Premièrement, le continent africain a le plus grand nombre de signataires, n'est-ce pas? Il y a 34 signataires du continent qui ont ratifié le statut de Rome. Et troisièmement, c'est grâce au continent, notamment, que le statut de Rome a pu rentrer en vigueur. Je rappelle qu'en 2002, il fallait qu'il y ait minimum 60 États qui aient ratifié le statut de Rome pour que le statut puisse rentrer en vigueur. Donc, vous voyez, 34 États ont... c'était la 50%, plus de 50% des pays qui avaient ratifié. Merci.
Merci beaucoup Margot. On va prendre une toute dernière et courte question. Nous sommes à 2 minutes de rendre l'antenne. Est-ce qu'il y a une question brève à Kinshasa? Goma? Oui, je vois. Alors rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute maintenant.
Merci beaucoup madame. Je voulais un peu savoir si le nom c'est Roberto pour les messagers du peuple. Madame, je voulais savoir si vous avez un peu la cartographie de la RDC par rapport aux réponses que vous êtes en train de donner. Puisque ça fait mal quand on pose une question par rapport au sujet du jour, vous êtes en train de donner des réponses qui ne sont pas vraies. Voici maintenant ma question.
Donc, non mais monsieur, je suis vraiment désolé, je vous suggère de revenir la semaine prochaine avec la suite de votre question, je viendrai avec mes cartes. Et on se retrouve même heure, même endroit, mercredi prochain. Je vous remercie à tous et merci aux auditeurs de Radio Okapi.